Bonjour. Vous êtes bien là? Bon. Ok. Prions. Seigneur Jésus, merci de ta grâce dans nos vies, ton pardon. Merci de ta longanimité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini, pour ta grâce, un don immérité dans nos vies. Pour le bonheur que l'on a de te connaître, de te faire connaître, de partager ta parole, de lire et méditer ta parole. Merci en effet de ce qu'elle est une lampe sur notre sentier, une lumière. Ô Seigneur, parle à nos cœurs, instruis-nous, conduis-nous, que nous puissions être humbles pour recevoir ta parole en toutes choses et grandir en toi. Au nom de Jésus, amen. Ce matin, nous allons continuer, frères et sœurs, le message que j'ai dû interrompre la dernière fois, avec pour thème le proverbe 18, verset 12, qui dit ceci: « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » L'humilité précède la gloire. Qui n'a pas besoin d'être humble? Qui n'a pas besoin de s'humilier dans sa vie pour demeurer humble ou devenir humble ou rester humble? Qui n'a pas besoin de découvrir l'humilité? Pour ma part, ça a pris du temps et c'est encore un long processus dans ma vie. Et parfois, Dieu suscite des gens autour de nous qui nous apprennent dans une certaine mesure la façon de nous humilier et d'être humble et de vivre humblement devant Dieu. Et on a vu la dernière fois que par excellence, le modèle d'humilité qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, par son incarnation, s'est humilié, se dépouillant, se rendant obéissant, nous dit la Bible en Philippiens 2, jusqu'à la mort de la croix. Une deuxième chose que le Seigneur a faite durant sa vie, montrant son humilité, c'est qu'il s'est rendu entièrement dépendant de Dieu le Père. On a vu quelques passages dans l'évangile de Jean, comment Jésus-Christ dépendait de Dieu le Père en toutes choses. Il a été envoyé par Dieu le Père, il ne fait, il ne dit que ce que Dieu le Père veut qu'il fasse et qu'il dise. Il était toujours à l'horloge de Dieu dans le bon temps, pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Et il a dit: ma nourriture est de faire la volonté de Dieu mon Père. Non seulement il était dépendant de Dieu le Père, mais il était constamment soumis à la volonté de Dieu le Père. Il dépendait de Dieu le Père, il était soumis à la volonté de Dieu le Père. Le fait qu'il se soit humilié dans l'éternité pour s'incarner était la manifestation d'un comportement qui allait durer durant toute sa vie, d'humilité, de dépendance envers Dieu le Père, de soumission. Vous savez, l'humilité se reflète par la capacité d'être soumis et d'obéir aux autres. Et pour nous, les enfants de Dieu, d'être soumis et d'obéir à Dieu le Père, de même que Jésus-Christ nous a laissé cette trace par excellence d'humilité. Mais aussi, il s'est humilié en descendant de sa gloire céleste. Et finalement, il a montré un autre aspect par son humilité de sa dépendance avec Dieu le Père dans son service. Non seulement il servait Dieu le Père, mais il a servi, il était le serviteur des autres. Il a dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir. Nous sommes en train de parler de l'humilité et nous sommes en train de voir ce que Dieu a quelque chose à nous dire ce matin, comme l'autre jour, concernant l'humilité. Donc on a regardé ensemble la dernière fois, on a essayé de regarder avec ce plan un petit peu de ce que Dieu veut nous apprendre au sujet de l'humilité. On en est ce matin au fait que Dieu parle de l'orgueil et de l'humilité. Ce n'est pas un sujet facultatif que de considérer ce que Dieu dit au sujet de l'orgueil et l'humilité. Juste en introduction, la dernière fois, on a vu ce qui est l'orgueil pour justement comprendre mieux peut-être ce qu'est l'humilité. L'orgueil de la vie, c'est tout ce que l'homme s'enorgueillit de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il possède. Tandis que l'humilité, c'est l'absence volontaire, c'est l'abaissement, excusez, volontaire par un sentiment de faiblesse, c'est tout simplement l'absence complète d'orgueil. En fait, dans la vie chrétienne, on s'aperçoit rapidement que nous sommes tous des orgueilleux. et que l'orgueil est un obstacle à notre croissance, que l'orgueil est un obstacle à notre sainteté. Quelqu'un a dit, Roy Eason, dans son livre, il a écrit, « L'humilité, c'est la beauté de la sainteté. L'humilité est le canal par lequel le croyant s'humilie devant Dieu pour dépendre de Dieu, pour qu'il le sanctifie par l'Esprit Saint, par les Écritures, où il se consacre et même il se repente, qui est une grâce de la part de Dieu. L'humilité, c'est la beauté de la sainteté. Il n'y a pas de sainteté sans humilité et sans humiliation. Non seulement Dieu veut qu'on s'humilie, mais il veut qu'on soit humble. En fait, Jésus nous a enseigné différentes vérités au sujet de l'humilité. Il est écrit, si vous voulez bien, tout d'abord tourner dans vos Bibles, en Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, le Seigneur parle d'un repas où il y a des conviés et il adresse cette parole pour nous inviter justement à être humbles. Et il dit ceci, au verset 8, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité vienne, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. » Et Jésus a dit ceci, qui est à souligner dans nos Bibles, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Cette parabole nous invite à être humbles, à ne pas chercher les premières places, à ne pas chercher à être devant, à ne pas chercher à prendre une place qui ne nous a pas été donnée. L'humilité, c'est d'être à la place que Dieu nous a donnée, de ne pas chercher une place qui ne serait pas la nôtre. L'humilité, ce n'est pas la fausse humilité. La fausse humilité, c'est un mensonge. Un professeur, un jour, a écrit au sujet d'un élève, « Il est modeste et fier de l'être. » Ce n'est pas tout à fait la vraie humilité, n'est-ce pas? La fausse humilité, ça consisterait à faire croire qu'on est humble alors que Dieu nous élève au temps convenable, de la façon dont, avec laquelle il veut le faire dans sa sagesse. Mais la Bible dit « Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Ça me fait penser à Jean-Baptiste qui a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Nous avons besoin d'apprendre à nous humilier. En fait, l'orgueil représente par contraste différents dangers. Dieu n'est pas indifférent de lire et de voir dans nos cœurs notre comportement, soit humble, soit orgueilleux. Et tous les jours de notre vie, nous faisons face à des situations où l'orgueil se manifeste, où l'humilité peut se manifester. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou c'est juste mon expérience personnelle? Tous les jours, il y a des occasions où nous pouvons nous humilier devant Dieu et devant les autres, où nous pouvons nous rendre humbles, où nous pouvons, au contraire, manifester notre droit et notre propre justice et notre orgueil. Il y a des dangers et des conséquences dans l'attitude orgueilleuse. Je vous lis les passages et je vous dis les mots-clés. Dans le Proverbe 11, verset 2, il est écrit « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. » Mais la sagesse est avec les hommes. Vous savez, dans les livres des Proverbes, l'auteur des Proverbes met souvent en contraste deux vérités. La sagesse de Dieu et la folie de l'homme. La sagesse de Dieu dans un cœur qui devient de l'homme qui devient sage, ou la folie de l'homme dans un cœur qui finalement est insensé. Quand l'orgueil vient, vient aussi l'ignominie. Proverbe 16, verset 5, « Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne sera pas impuni. » Donc il y a ignominie qui est attachée à l'orgueil, il y a le châtiment de Dieu qui est attaché à l'orgueil, et la Bible ajoute en Proverbe 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Ignominie, châtiment et chute. Et on a lu ce matin, et c'est le leitmotiv un petit peu de cet exposé, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et la Bible ajoute en Jacques, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La parole de Dieu nous invite à nous humilier. Et si on ne s'humilie pas, Dieu parfois est obligé de nous humilier par des circonstances particulières où les épreuves de la vie sont comme un burin divin dans le bloc que nous sommes de granit, dur de cœur, orgueilleux, où Dieu est en train de nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Il y a parfois des coups de burin divin qui font mal dans nos cœurs, parce que nous devons apprendre à dépendre de Dieu, nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu, et aussi à servir le Seigneur, à servir les autres, à l'exemple de Jésus-Christ. Dieu a fait de nous des petits Christ, des comme Christ, des chrétiens, des disciples qui devraient ressembler à leur maître. Et si Jésus nous a laissé par son incarnation suprême l'exemple parfait de l'humilité, certainement il nous invite à suivre ces traces-là. Et reconnaissons que parfois nous avons le cou raide, n'est-ce pas ? Parfois reconnaissons que nous sommes durs d'entendement, que nous résistons à la pensée et à la volonté de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Daniel. On va regarder l'exemple d'un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Et en Daniel chapitre 3, nous avons ici l'histoire d'un roi puissant, certes, mais qui est entaché d'une maladie, qui devient mégalo, qui centre toutes choses sur lui, comme notre frère a dit un petit peu en introduction tout à l'heure. Et on lit au chapitre 3, verset 1, ce que dit les Écritures à son sujet. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, etc. Et puis on lit un petit peu plus loin, au verset 5, « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Que représentait cette statue lui-même ? Mais dans les pays totalitaires aujourd'hui, il y a une adulation qui se fait au niveau des généraux qui sont des dictateurs ou des rois avec une photo. On pense à la photo de Mao, n'est-ce pas, qui avait envahi ces milliards de Chinois et qui vénéraient leur leader comme un dieu. Enfin, Nebuchadnezzar est en train de vivre un mensonge. Il est en train de prendre la place de Dieu. Le diable est le père des mensonges. Il veut que les hommes l'adorent à lui. Et l'ego, c'est justement donner la place au diable par la chair, afin que nous n'adorions pas Dieu comme le seul créateur qui mérite la seule adoration, mais nous tombons dans l'idolâtrie. Ça peut être l'idolâtrie de soi-même, comme Nebuchadnezzar, l'idolâtrie d'un être cher, l'idolâtrie d'un sport, l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie d'une carrière. C'est subtil comment le cœur humain, enflammé par le diable et tenté par le diable, peut prendre une place que Dieu ne veut pas qu'il prenne. Et c'est exactement ce qui arrive au roi Nebuchadnezzar. Dans une vision, Dieu, Daniel, est en train de lui expliquer cette vision des royaumes successifs. On n'a pas le temps de voir ça en détail. Et Nebuchadnezzar prend le centre de toute chose, de cette révélation. Il tombe dans l'orgueil, un orgueil terrible. Et voilà ce que Dieu dit, si vous regardez un petit peu plus loin maintenant. Dieu va le punir, le châtier, et finalement, Daniel a une vision à propos d'un arbre gigantesque, et il interprète les visions, vous savez Daniel, c'est assez extraordinaire, les songes, et voilà ce qu'il dit. Au verset 28, écoutez-moi bien, chapitre 4 de Daniel, « Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar, du fait qu'il allait perdre son royaume. » Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Nebuchadnezzar prenait une place qui était une place démesurée, et Dieu l'a humilié. Il l'a rendu comme un animal herbivore qui s'est nourri des champs. Et pendant plusieurs années, Nebuchadnezzar est devenu comme un animal traité comme un homme qui avait perdu la raison, et dans sa folie, il mangeait l'herbe des champs comme un herbivore, un animal herbivore. Dieu l'a profondément humilié, et Dieu, par sa grâce divine, l'a guéri et l'a relevé. Au verset 34, après le temps marqué, « Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. » Vous savez, la raison revient lorsque nos yeux regardent à qui ? À Dieu lui-même. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Quand il a vu Dieu et qu'il a laissé à Dieu toute la place comme le créateur des cieux et de la terre, celui qui est maître du courant de l'histoire, et c'est lui qui règne malgré le règne des souverains, c'est lui qui est le maître de l'histoire, c'est lui qui est le maître des royaumes, alors en s'humiliant, Dieu lui a redonné la raison. Et finalement, au verset 37, le résultat de son épreuve ici, il dit lui-même, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Dans toutes les œuvres, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et c'est exactement ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar. Quand David a voulu faire le recensement, il nous a dit qu'il a été tenté par le diable, qu'il a fait le recensement de tout le peuple en Israël, alors que Dieu ne lui avait pas fait la demande. Dieu a châtié ensuite, de façon exemplaire, le peuple et le roi à cause de son péché. L'orgueil est une racine profonde dans le cœur de l'homme qui nous empêche de voir Dieu. C'est un problème sérieux dans nos vies. Et je vous invite à considérer ce que dit Dieu. « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin d'être élevé au temps convenable », nous dit l'apôtre Jacques, demi-frère de Jésus. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu cherche à créer l'humilité en nous parce que c'est le canal par lequel sa gloire va éclater. Tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont marché avec Dieu ont été des hommes et des femmes qui ont marché humblement devant Dieu pour laisser Dieu agir et accomplir sa volonté en eux. Reconnaissons que notre propre volonté est un obstacle à la bénédiction de Dieu. Nos propres raisonnements, nos propres émotions, nos propres pensées, sentiments peuvent devenir un obstacle devant Dieu. C'est pour ça que Michée nous dit ceci, et c'est quelque chose que l'on chante, et donc certainement que vous pouvez mémoriser par les paroles du chant, le verset suivant, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien ». Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement avec ton Dieu, dépendant de ton Dieu, soumis à sa volonté, à ses plans, à ses pensées, à sa parole. Donc je dois apprendre à connaître sa parole. Lorsque nous avons chanté « Ta parole est une lumière sur notre sentier », est-ce que nous l'utilisons ou est-ce que les batteries sont en plat parce que nous n'utilisons plus la parole pour découvrir quelle est la pensée de Dieu et la volonté de Dieu dans nos vies. Dieu est maître des circonstances. Nous devons apprendre. Et je ne sais pas vous, mais je pense que toute ma vie, j'ai quelque part failli de ne pas réaliser que Dieu est souverain dans ma vie. Et encore, je lutte avec cela, je pense, à me rendre compte. Mais Dieu est maître et souverain et rien de ce qui arrive dans ma vie n'est permis par Dieu. Dieu est souverain. Il est maître de l'histoire, maître du temps, il est maître de ma vie. Et s'il permet des épreuves dans ma vie, c'est justement peut-être pour m'apprendre à marcher humblement avec lui. Et en Romains 12, 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée », c'est Paul qui dit « Par la grâce qui m'a été donnée », « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une autre haute opinion », mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous n'avons de place de nous glorifier que dans le Seigneur, et dans la mesure où Dieu nous a accordé des grâces, et c'est une grâce encore de parler des grâces de Dieu dans nos vies. Mais nous n'avons aucune place à donner à notre propre moi ou à notre orgueil spirituel, et de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes, mais de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dit Paul en Philippiens, parce que l'équation de l'unité dans une église, c'est l'humilité plus la vérité, plus l'amour. Mais l'humilité est un ingrédient indispensable à vivre dans l'unité dans l'église et dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement Dieu nous demande d'être humbles, mais de nous humilier. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, que de s'humilier. Qu'est-ce que c'est que de s'humilier? Je vous invite à tourner en 1 Pierre chapitre 5. Nous avons une idée ici d'une exhortation que l'apôtre Pierre donne tout d'abord aux anciens. Il dit ceci, chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Voilà une des choses que Pierre demande à l'ancien, dans la façon avec laquelle il se présente. Il ne se présente pas comme le leader des 12 apôtres. Il ne se présente pas avec l'autorité apostolique pour s'imposer aux anciens d'une église. Il est en train de dire « moi, ancien, comme vous ». Il n'est pas en train de se mettre au-dessus des autres, il est juste en train de manifester un cœur humble pour exhorter les anciens. Et qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande d'être tout d'abord humble. C'est sous-entendu dans ce verset, et plus tard il répète plusieurs fois le mot « s'humilier ». Et la deuxième chose qu'il demande aux anciens, c'est de paître le troupeau. Avec grâce, et il y a plusieurs points ici, on n'a pas le temps de le regarder, mais certainement que les bergers ou les anciens humbles, ils paissent le troupeau avec amour, volontairement, avec dévouement, sans esprit de gain particulier, mais dans le désintéressement. Et puis, il y a une recommandation ici qui suite aux anciens, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens ». La soumission est le reflet d'une vraie humilité. La rébellion est le reflet de l'orgueil. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de quoi? D'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu me demande d'être humble, mais aussi me demande de m'humilier. M'humilier devant Dieu, m'humilier devant les autres, m'humilier afin que je sois dépendant de lui. Humus, la terre, n'est-ce pas? Humble, l'humilité, on est de la poussière, on retourne à la poussière. Qui sommes-nous pour nous élever devant Dieu? Et pourtant, le cœur de l'homme est assez orgueilleux pour s'élever devant Dieu. C'est notre nature pécheresse. C'est dans les fibres de notre être les plus enracinées. Et l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dieu nous demande de nous humilier. Il est écrit donc en Jacques 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, afin que tu marches humblement selon ton Dieu. » Non seulement nous devons être humbles dans notre service, nous devons être humbles dans nos rapports mutuels, mais nous devons être humbles devant Dieu, dans la recherche de Dieu, dans nos prières. La Bible dit en 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu cherche des gens qui s'humilient pour chercher la face de Dieu, chercher sa volonté. C'est ce que nous allons faire le 5 octobre, le samedi, chercher la face de Dieu ensemble, dans un cœur uni d'humilité devant Dieu, en disant « Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance au siècle des siècles. Parle, ton serviteur écoute. » Dieu a fait de l'humilité une vertu qu'il recherche à voir dans le cœur du croyant, parce que c'est le canal par lequel la bénédiction vient, notamment sa sainteté. L'humilité est la porte de la sainteté. L'humilité, certes, est la beauté de la sainteté, mais l'humilité est la porte qui donne accès à la sainteté de Dieu. J'aimerais juste un instant vous amener au fait que Dieu nous parle avec tellement d'importance d'humilité en comparant à nouveau l'orgueil et l'humilité. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède l'orgueil. Et j'ai marqué ici dans mes notes que l'orgueil est souvent synonyme d'individualisme, moi d'abord, d'entêtement, de rancœur, de rancune, d'amertume, de médisance, de calomnie, d'hypocrisie, de lâcheté, de propre volonté, de mensonge, de colère. Tout ça sont des symptômes de l'orgueil. Et bien d'autres irritations dans nos vies. L'orgueil empêche la lumière de luire dans nos vies et est un obstacle. j'ai toujours raison. On ne dit pas ça, mais l'orgueil veut avoir raison, tandis que Dieu nous dit « tu as tort ». En fait, c'est un obstacle à nos vies de prière, parce que la vie de prière est bénie dans la mesure où on dépend de Dieu le Père, on se laisse diriger par le Saint-Esprit, dans un esprit d'humilité, pour dépendre de Dieu le Père, afin que l'Esprit de Dieu nous conduise dans la prière. Pourquoi y a-t-il un manque d'esprit de prière dans nos vies ? C'est parce que nous ne sommes pas assez humbles pour demeurer en Christ et recevoir de lui l'esprit de prière. C'est un obstacle à notre vie de service, c'est un obstacle à notre témoignage envers le monde, c'est un obstacle envers la sainteté et c'est un obstacle aussi envers la communion des frères et des sœurs. En fait, j'ai marqué « l'orgueil est un obstacle à la grâce de Dieu ». Vous savez, la main de l'orgueil, c'est une main qui est fermée, c'est comme un poing. Et la main fermée ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Tandis que l'humilité, c'est la main ouverte qui reçoit la grâce de Dieu. L'orgueil, c'est un poing, c'est une rébellion qui empêche la grâce de Dieu de se manifester dans nos vies. Tandis que l'humilité, c'est le cœur ouvert, la main ouverte qui reçoit de Dieu les bénédictions de Dieu. Et dans ce cas-là, lorsqu'on est humble, on marche dans la lumière, comme Jésus-Christ dans la lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et on devient une source de bénédiction, d'encouragement pour les autres, de joie dans la prière. L'humilité est une source de zèle pour le Seigneur, d'amour profond pour les âmes, de délivrance dans notre marche, de pardon et d'amour pour les frères et sœurs. Nous n'entendons pas souvent de témoignages de délivrance. Mais chacun de nous, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de délivrance, d'être mis à part pour Dieu, d'être séparés du péché, notre vieille nature, et de vivre pour Christ. Et dans ce processus, nous avons besoin de délivrance. Et la délivrance vient par la grâce de Dieu. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Alors, nous sommes encouragés ce matin à aller devant Dieu, de fermer la porte de notre chambre et de nous humilier peut-être personnellement ou avec d'autres, et de crier à Dieu afin de nous humilier pour recevoir grâce sur grâce dans nos vies. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. La main de l'humilité saisit la grâce de Dieu. J'ai mis ici « connaître Dieu nous rend humbles ». Nous connaître nous garde dans l'humilité. Connaître Dieu nous rend humbles. Nous connaître nous garde dans l'humilité. Dieu a comparé l'orgueil et l'humilité afin de nous encourager, frères et sœurs, à vivre dans l'humilité, à renoncer aux mensonges, à renoncer à ce qui est faux dans nos vies. L'orgueil alimente le mensonge dans nos cœurs. Mais Dieu, par l'humilité, nous amène à sa lumière, à nous dépouiller afin d'être purifiés. J'aimerais juste esquisser, si vous me permettez, quelques points qui montrent que l'humilité est indispensable dans nos vies. Premièrement, la Bible dit « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie ». Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Certainement, la volonté de Dieu, en grande, grande majorité dans nos vies, est déjà toute écrite dans ce livre. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, elle est là pour nous guider et nous faire connaître Dieu lui-même et sa volonté. Donc, nous soumettre à Dieu, c'est nous soumettre à sa parole. Nous soumettre à sa parole, c'est nous soumettre à Dieu. Mais il y a des cas plus particuliers où nous avons besoin de rechercher la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas clairement écrit si je dois aller dans tel endroit, prendre telle carrière, etc. Vous comprenez l'idée. Et là, je dois m'humilier devant Dieu. Il conduit les hommes dans la justice. Dieu a un plan de justice. Dieu a un plan de droiture pour chacun de nous. Et Dieu veut qu'on soit dans ce plan, non seulement dans sa volonté révélée, mais dans sa volonté quotidienne, il enseigne aux humbles sa voie. Combien de fois nous perdons notre temps parce que nous sommes en dehors de la pensée de la volonté de Dieu. Le sentiment d'être dans la volonté de Dieu dans la journée est un bien-être, une assurance et un repos profond. C'est lorsque nous sommes agités que nous perdons la notion que Dieu est au contrôle et que nous pouvons lui laisser le contrôle parce qu'il est souverain. Un deuxième aspect ici, c'est que pour être en bonne communion les uns envers les autres, l'humilité est indispensable. Paul disait aux Philippiens, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » j'ose dire, ce n'était pas dans mes notes ici ce matin, que toute division d'Église vient de l'orgueil. Toute division vient de l'orgueil. Quand il y a orgueil, il y a division, il y a conflit. Parfois, les conflits viennent de frictions dues à des énergies qui sont là et qui sont positives, et c'est juste une façon de régler les frictions pour aller dans le bon sens, qui évite les fractions, les divisions. C'est pas parce qu'il y a de l'énergie que ça va amener à la division. Mais l'orgueil est l'ingrédient dans la friction qui amène la division, qui pourrait amener la division. Nous avons besoin de nous humilier. La Bible dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Lorsque je m'humilie, que je vois l'autre au-dessus, alors je respecte mon frère et ma sœur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et Paul ajoute en 1 Corinthiens, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. J'ai envie de penser, de dire que la grenouille qui s'enfle, n'est-ce pas, à un moment donné, ben, elle éclate. Et je crois que parfois, quand nos cœurs s'enflent, n'est-ce pas, Dieu prend juste une petite aiguille. Ça peut être un cher frère et sœur bien-aimé, ou peut-être celui avec qui on a des difficultés, qui prend juste l'aiguille, sans même le savoir, pouf! Vous savez, les ballons bien tendus, bien gonflés, il suffit juste d'un petit accroc pour qu'ils éclatent. Et alors là, après, c'est le vide, n'est-ce pas? Et Dieu, mille et une fois dans la journée, utilise des choses dans nos vies pour nous humilier. Et nous avons toujours le choix, résister ou céder. Résister à Dieu ou céder devant Dieu. Être humble devant Dieu et donc être humble devant les hommes. Paul ajoute en Romains 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Il n'y a pas d'amour qui n'ait pas de racine d'humilité. Pensez à cela. L'amour, ça consiste à être humble aussi. Parce que quand on commence à aimer les autres, on s'efface soi-même. Et on avait un petit leitmotiv avec un de mes copains de l'école biblique, on disait « aimer, c'est commencer de souffrir ». Et ce n'est pas tout à fait faux. Quand on commence à prendre à cœur les frères et sœurs, eh bien, il y a certainement de la joie, mais il y a aussi des fardeaux qui nous sont communiqués. Et la Bible dit « portez les fardeaux les uns des autres ». Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Nous avons besoin, en tant que famille, de nous aimer les uns les autres et de pratiquer la charité. Et Paul dit en Éphésiens 4, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. » L'humilité et la douceur vont de pair. « Avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité. » Colossiens, ayant donc comme des élus saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. En fait, c'est un ingrédient qui revient constamment dans la parole de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, pour être en communion les uns vers les autres, et finalement pour être dans la plénitude de Dieu et de ses bénédictions, Jacques dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je ne sais pas vous, mais lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on est tellement tellement malheureux dans son cœur et dans son esprit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute connaissance est un ingrédient indispensable dans nos vies. C'est pour ça que souvent, Paul commence ses épîtres que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça semble être une salutation tout à fait simple, mais que la grâce et la paix. Est-ce que vraiment nous vivons de la grâce de Dieu? Est-ce que nous vivrons dans la paix de Dieu jour après jour? C'est ce que Dieu désire dans nos vies, que sa grâce et sa paix soient dans nos cœurs. Et cela vient dans un cœur qui s'humilie. Et notamment, la humilité est indispensable dans la confession de nos péchés. 1 Jean 1, versets 5 à 7 dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. » Le mensonge dans nos vies, c'est les ténèbres que nous laissons régner dans nos vies. Mais quand la lumière paraît de Jésus-Christ, alors nous devons croire de tout notre cœur à la lumière pour chasser les ténèbres. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Plus je vis dans la lumière, plus je marche dans la lumière, plus mon péché est purifié par le sang, plus je suis en communion avec les autres. Mais Jean continue à dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. L'humilité consiste à reconnaître qu'il y a un péché dans ma vie, qu'il peut y avoir du péché, que ce péché a besoin d'être confessé et abandonné. C'est pour ça que dans les Proverbes, Salomon dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Je me souviens, quand j'étais jeune et dans la religion que je pratiquais, je devais me confesser donc à un prêtre. Et étant tout jeune, étant dans une école libre, je devais toutes les semaines aller me confesser. Bon, c'était libre, mais j'y allais parce que j'avais besoin. Et je me souviens, après avoir confessé certaines choses, il me semblait que la conscience était libérée. Et dans le couloir, après m'être confessé, il me semble que j'avais un soulagement. Le problème, c'est que ma conscience était soulagée que provisoirement, jusqu'à ce que je refasse les mêmes choses. L'humilité, c'est plus que confesser, c'est abandonner le péché. C'est d'être prêt à voir le péché comme Dieu le voit, à ne plus discuter avec Dieu. Si j'ai de l'orgueil dans ma vie, c'est de l'orgueil. S'il y a du mensonge, c'est du mensonge. S'il y a un manque d'amour, c'est un manque d'amour. S'il y a un manque de zèle, c'est un manque de zèle. Un manque de pardon, c'est un manque de pardon. Appelons le péché comme Dieu appelle le péché. Ne nous cachons pas la face, ne faisons pas l'autruche comme Adam et Ève qui ont fui la face de Dieu après avoir abandonné Dieu et péché contre Dieu. Nous avons besoin d'humilité pour nous apprendre à nous pardonner les uns les autres. La Bible dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans mon ministère, il y a à un moment donné un frère assez haut placé quand j'étais au Canada qui, je ne sais pas pourquoi, avait une tendance parfois à être un peu agressif envers moi. Et j'ai dû m'humilier beaucoup parce que je commençais à avoir de l'amertume. Et jusqu'au moment où Dieu m'a montré que la façon d'être délivré, d'être capable de lui pardonner, c'est de prier fidèlement pour ce frère-là, jusqu'à ce que j'aie des larmes pour lui. Et dans la mesure où j'ai eu des larmes pour lui, j'ai su que je l'aimais vraiment. Et le pardon s'est installé dans mon cœur. Et il n'y avait plus cet esprit négatif et d'amertume et de critique envers ce frère qui m'avait fait souffrir. Peut-être inconscient, mais qui avait même fait souffrir. Le pardon est synonyme d'humilité dans nos vies. Nous ne pouvons pas pardonner si nous mettons l'orgueil entre nous et ceux qui nous ont offensés. Mais si nous mettons la grâce de Dieu, comme Christ nous a pardonné, nous sommes capables de pardonner. Et même Pierre, courageusement, Pierre l'impulsif disait « Combien de fois, Seigneur, devrais-je lui pardonner ?» Au moins 7 fois, jusqu'à 7 fois. 7 fois. Et Jésus l'a regardé, il a dit « Écoute, là, enfin je dis dans mes mots, 70 fois, 7 fois. » Et je pense que ce n'était pas limité, ça fait 490 fois. Dans un couple, on a besoin d'apprendre à se pardonner l'un l'autre. Et c'est tous les jours, et c'est toutes les années, et toute la vie. C'est un besoin constant. La charité couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas voir la vérité. Il y a un bel exemple, et c'est presque terminé. C'est l'exemple de Joseph. Joseph, à l'âge de 17 ans, a été vendu par ses frères, c'est un type de Jésus-Christ, injustement, pour quelques pièces. Et 39 ans, à l'âge de 39 ans, donc ça fait 13 et 9, 22 ans, mon calcul est bon, il a rencontré ses frères, après 22 ans d'épreuves. Et quand il a rencontré ses frères, qu'il avait vendu injustement par jalousie, regardez avec moi ce qu'il dit à ses frères, Genèse 45. Tournez dans vos Bibles en Genèse 45. Genèse 45. Voilà comment, dans l'humilité, après toutes ces épreuves, après avoir été vendu, après avoir été fait prisonnier, élevé, remis prisonnier, puis finalement délivré par la grâce de Dieu seulement, voilà ce que dit Joseph envers ses frères, qu'il avait traité injustement. Chapitre 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voyez-vous, l'humilité a fait qu'il a transformé le mal en bien. Il a vu les choses comme Dieu les voyait. C'est extraordinaire cela. Dans notre résistance personnelle et notre orgueil, on peut réagir aux circonstances et aux gens de nos propres yeux. Mais si nous réagissons les yeux fixés sur le Seigneur, nous voyons à ce moment-là les gens d'une autre manière. Et pour terminer, Joseph dit ceci, Vous parlerez ainsi à Joseph, etc. Verset 19, chapitre 50, bon, je n'ai pas le temps de le lire. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu est le seul capable de transformer le mal en bien. Un jour, il faut absolument, par la grâce de Dieu, que je fasse un message là-dessus. C'est passionnant. Dieu est le seul capable de transformer le mal en bien. Dieu est capable de transformer notre orgueil en humilité. Et par l'humilité, de voir les choses comme Dieu les voit. Royson, dans son livre, dit au sujet de l'humilité, « L'humiliation est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. » L'humiliation est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. Je dois terminer, mais je ne voudrais pas terminer sans lire Deutéronome, si vous voulez regarder avec moi, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Un aspect de la façon avec laquelle Dieu cherche à nous humilier pour que nous soyons humbles. Chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de, vous lisez avec moi, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Comment? Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne. Il n'aimait pas tellement les Israélites. Et que tu ne connaissais pas, que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Quelque part, parfois, le croyant est appelé à jeûner pour s'humilier, pour chercher Dieu de tout son cœur, afin de faire de Dieu son Seigneur et de le rechercher de tout son cœur. Nous avons parlé de l'humilité en contraste avec l'orgueil. On a regardé Jésus-Christ dans son incarnation, sa dépendance, sa soumission, son service, comment Jésus s'est humilié, s'est rendu humble et était humble. On a parlé de l'importance de l'humilité, même du fait qu'elle est indispensable et que Dieu cherche vraiment ce qu'on soit humble. Qu'allons-nous faire de cet enseignement ? La Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Les bienfaits de notre dépendance totale envers Dieu sont incalculables. C'est ma conclusion. C'est le fruit de l'esprit. C'est une vie de service et de prière. C'est une vie libre de tout péché, une vie de paix et de joie. L'orgueil de nos cœurs est tel que parfois nous faisons tout notre possible pour éviter l'humiliation. Nous fuyons l'humiliation. Et parfois, nous ne aimons pas devenir transparents vers les frères et sœurs, parce qu'à ce moment-là, ils nous voient tels que nous sommes. Et peut-être il y a un péché dans nos cœurs qui est décelé, peut-être parce qu'ils doivent prier pour nous, et nous fuyons parce que nous ne voulons pas être connus comme nous sommes. C'est de l'orgueil. Il y a un cœur, il y a une forteresse dans le cœur de l'homme qui s'appelle orgueil. Et c'est la seule cause qui amène l'homme en enfer. Il vaut mieux s'humilier sur la terre pour accepter Jésus-Christ que de résister par orgueil à Dieu sur la terre et d'arriver dans le ciel sans Jésus-Christ. Il vaut mieux s'humilier sur cette terre que de résister et de maintenir son orgueil. Il vaut mieux s'humilier pour entrer au ciel. La Bible dit qu'il faut s'humilier pour entrer au ciel. Ce n'est pas les paroles exactes, mais nous devons nous humilier. Revenir comme des petits-enfants. Un enfant est souvent vrai. Lorsqu'il n'est pas élevé dans l'hypocrisie, un enfant est souvent vrai, il dit la vérité. Nous devons dire la vérité devant Dieu. Peut-être y a-t-il ce matin, et c'est un appel, quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui résiste, qui cache la vérité, sa vérité devant Dieu. Mais Dieu, c'est comme un tiroir, il ouvre comme une commode, il ouvre tous les tiroirs. Il met l'accent sur ce qui peut-être fait mal, mais es-tu sûr d'être sauvé, d'être en route pour le ciel ? Si tu devais mourir aujourd'hui et entrer dans la présence de Dieu, pour quelle raison est-ce que Dieu devrait-il te laisser entrer au ciel? Et nous qui sommes croyants, qui avons déjà connu la paix, la joie du Seigneur, est-ce que nous pouvons reconnaître quelque part que dans nos vies, il y a quelque chose, certainement, peut-être même qui vous vient à l'esprit, qui a besoin d'être abandonné devant Dieu? Pensez à quelque chose dans votre esprit. Soyons pratiques ce matin. Nous avons parlé de l'humilité et nous avons parlé du besoin de s'humilier. Et maintenant, nous devons nous humilier, pas simplement maintenant, certainement, mais nous aurons des occasions, certainement, dans cette journée et dans la semaine et dans les mois et les années à venir. Quelle attitude allons-nous prendre ? La résistance, l'orgueil, qui est le poing fermé, qui ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, ou la main ouverte, qui dit « Seigneur, aie pitié de moi », qui reçoit la grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Prions et humilions-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons venir à toi, chacun de nous ici, et reconnaître qui nous sommes. Ne pas jouer un jeu qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique, qui n'est pas toi. Donne-nous, Seigneur, de marcher humblement avec toi, d'être en communion avec le Fils, avec Dieu le Père, et d'être en communion les uns vers les autres. Travaille dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous nous humilions devant toi pour te remettre ce projet de toute cette année, koinonia, la communion divine, la communion fraternelle. Seigneur, aie pitié de nous. Rends-nous humbles. Et fais de nous tes serviteurs. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, aide-nous à nous aimer les uns les autres et à marcher humblement avec toi, à être en communion avec toi. Sois avec nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu nous es indispensable dans nos vies, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici, nos yeux sont fermés, notre cœur s'humilie, nos têtes sont baissées, peut-être y a-t-il quelqu'un qui dit ce matin qui dit « Priez pour moi, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Je voudrais l'être. » Peut-être y a-t-il quelqu'un, je ne sais pas, je voudrais prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un, pourriez-vous lever la main juste un instant et dire « Priez pour moi, je voudrais recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. » Ou peut-être y a-t-il quelqu'un simplement devant Dieu qui a besoin de s'humilier à l'instant. Alors vous n'avez pas besoin de lever la main, si vous voulez lever la main, vous pouvez le faire en tant que croyant. Et vous dites, priez pour moi. Personne ne vous regarde, mais si vous avez ce besoin-là, faites-le devant Dieu maintenant. Faites-le, osons nous humilier devant Dieu. Au nom de Jésus, Amen.